Plus proche de toi, mon Dieu, plus proche de toi. Même si ici, les afflictions me pressent et nous passons par des difficultés, malgré tout, ma solution, qu'elle soit seulement d'être plus proche de toi, de vivre plus proche de toi. Brise-moi comme Jacob là-bas. Si pour endroit de repos je trouve qu'une pierre, même ici dans les songes, cela demeure mon désir de vivre plus proche de toi. Vivre plus proche de toi. Même si la honte et l'oppression et l'opprobre est très dur, tu nous conduis. Comme c'est beau de marcher avec toi et d'aller vers le ciel, vivre plus proche de toi. Mon Dieu, plus proche de toi. Bientôt la nuit passe et l'aurore arrive. Et d'une manière nouvelle, je me tiendrai devant ton trône. Bâtis ma Bethel pour toi. Endroit de joie ici, plus proche de toi, être plus proche de toi. Mon Dieu. Même si complètement voilé, ton chemin m'est encore parfois ici. Mon désir s'accomplira toujours de vivre plus proche de toi. Quand j'aurai achevé ma course, je serai reçu avec joie. Oh, vivre plus proche de toi. Plus proche de toi. Merci. Moi aussi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous saluer. De ma part, je suis reconnaissant de ce que nous pouvons encore nous réunir et que nous pouvons encore ici nous rassembler dans le repos et la paix. Et que la paix de Dieu puisse en nous et sur nous venir, que en paix, nous puissions apporter l'honneur à son nom, dans la paix intérieure aussi les uns avec les autres, pour que lui seul reçoive ce qui lui revient de plein droit. Loué et exalté soit le Seigneur pour sa grâce. Bon, j'avais déjà écrit les salutations, mais je vais les lire moi-même ce matin déjà, tôt le matin. des frères et sœurs ont appelé de la Moldavie. Et je dois dire qu'ils sont très réjouis de ce que ils sont réjouis de ce qu'ils peuvent directement suivre en direct et suivre la parole. Et que le Seigneur nous accorde. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait en nous et pour les possibilités qu'il nous a accordées. Je disais déjà à un frère, comme à un frère qui a appelé ce matin, comme c'est bien de ce que la technique nous a été donnée pour bénédiction. Elle nous a été donnée à nous pour bénédiction, pour beaucoup d'autres. Elle est donnée pour chute, mais pour nous, elle est donnée pour bénédiction. Et à l'autre bout du fil, le frère disait, il le disait, je le prononce tel qu'il a dit, Slava Bobo. Ça veut dire que Dieu soit remercié en russe. Et c'est ainsi que nous pouvons remercier Dieu et que aussi dans notre temps, il parle encore aussi à nous, avec nous. Comme déjà hier soir, je crois tous, nous sommes encore touchés et rempli de la parole de hier, et nous avons compris de quoi il s'agit. De laisser la parole à sa place, là où elle est écrite, dans le contexte, et de ne pas la sortir de son contexte, de ne pas déplacer un verset, mais l'utiliser à sa place, dans son contexte. Et parfois, pour nous, c'est incompréhensible, mais il y a des heures, il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais l'heure arrive où tout nous sera révélé. Et comme il est souvent écrit, quand le temps fut accompli et quand le temps est accompli, alors à toi et à moi et à nous tous, cela sera révélé. Mais nous savons que tout ce qui est encore ici sur terre fait est fait en partie. La perfection est auprès du Seigneur et vient seulement du Seigneur. Et que son nom soit loué de ce que nous pouvons regarder à lui et le remercier, je répète encore une fois, remercier soit Dieu de ce que il nous a accordé sa grâce et il nous accorde sa grâce et il nous montre l'importance. Il nous montre en quoi est contenue l'importance et que nous devons laisser chaque parole là où elle est écrite et qu'on s'entend, elle nous sera révélée. Je voudrais, avant que nous puissions encore ensemble prier, lire une parole qui est connue de nous tous, que le Seigneur lui-même a prononcée, de l'évangile de Jean, le chapitre 15, quelques versets. Ici, il parle, dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et je crois que ça, c'est notre désir et souhait à tous, pour que nous puissions demeurer en lui, en tant que sarment purifié et sanctifié, pour que le fruit devienne visible, pas seulement devenir visible, mais qu'il puisse arriver à sa maturité totale. Et il dit encore au verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Est-ce que la parole nous a été annoncée, adressée? Est-ce qu'elle a pu en nous produire l'effet pour lequel elle a été envoyée? Si, c'est le cas. Alors, c'est ainsi que tel qu'il le dit ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce qu'il a parlé avec nous? Oui et Amen. Est-ce qu'il parle avec nous? Oui et justement Amen. Il a préparé sa parole pour que nous puissions l'écouter et la recevoir et lui dire toutes les reconnaissances. Et encore le verset 4, il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. En autre parole, je m'excuse, je répète encore une fois, de ne rien sortir du contexte, mais de laisser chaque verset et chaque parole là où c'est écrit. Et dans son contexte, c'est seulement comme ça que nous pouvons demeurer dans la parole. Et si nous demeurons en lui, il demeurera en nous et nous pourrons porter du fruit pour l'honneur de Dieu. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Ô Père Céleste, nous te remercions pour les possibilités que nous accordes, que tu nous accordes. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait en nous. Ô Dieu du ciel et de la terre. Toi seul, tu es digne de recevoir adoration et honneur, louange et adoration. En Jésus-Christ, ô notre Seigneur, qui est mort pour nous. Oui, qui est ressuscité pour nous. En tant que prémisse, nous te remercions. Ô bénis-nous encore ce matin. Accorde ta parole, que tu puisses oindre ta parole et oindre les lèvres par lesquelles tu parleras. Oindre nos cœurs et ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir, pour que ton nom soit glorifié et honoré. Amen. Amen. Sentons encore, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Amen. Nous allons encore demander au frère Rousse de dire quelque chose. Dieu l'a béni. Et la parole est toujours la même. Ça n'a pas d'importance de qui est-ce qu'elle est lue et aussi est apportée. On vous a déjà souhaité la bienvenue à tous et nous le pensons ainsi. Nous le pensons ainsi. Nous croyons que Dieu réellement rassemble son peuple, et cela de tous les peuples, les langues et les nations, tel que Dieu, dans la première promesse, avait dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Et tel que dans Galates 3 de Paul, cela est exposé que les nations par Jésus-Christ ont été bénies et que à la fin du temps de la grâce, nous avons le privilège réellement d'écouter les vraies paroles du Seigneur, de les croire et de les recevoir révélées. Ça, c'est un signe sûr que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons reçu des appels du frère Manfred de Santiago, des frères de l'Afrique qui ont écouté en direct et qui ont vu en direct. En tout, il y en avait 180, il y avait 180 ordinateurs qui étaient branchés. Et on ne sait pas combien de milliers de personnes ont écouté et ont vu. Le frère John a déjà annoncé ce que Dieu va faire et a fait. Et le frère Daniel nous écrit ce matin très tôt ses emails que 66 ordinateurs étaient liés, branchés en Roumanie et que les enfants de Dieu dans tout le pays hier ont écouté, suivi et ont vu. Ensuite, il écrit ici que le prédicateur dans les l'église pentecôtiste a prononcé publiquement et a dit que jamais auparavant nous avons écouté la parole de Dieu avec une telle autorité. La parole de Dieu en elle-même est l'absolu, l'autorité divine. Ce n'est pas Moïse qui était l'autorité, mais Dieu et la parole de Dieu était et est l'autorité. Le frère Wallström remet toujours des salutations. Le frère Graf remet des salutations. Tous les frères de loin et de près remettent leurs salutations. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous avons la possibilité ainsi d'atteindre le monde entier. Et je devais penser à la manière avec laquelle Dieu a conduit et dirigé toutes choses, aussi les différentes étapes des années passées. Personne se cherche, personne ne désire l'être, mais si nous sommes comme ça devenus une partie de l'histoire du salut, alors ici s'accomplit ce que Dieu a promis. Avant que nous puissions entrer dans l'observation de la parole de Dieu, je voudrais encore dire les choses suivantes. Le voyage en Israël va avoir lieu cette année, Dieu voulant, et que assez de personnes s'enregistrent, aura lieu du 7 jusqu'au 17 mai. C'est donc dans le temps de la Pâque selon le calendrier. Il y aura donc une tournée qui aura lieu du vendredi de Pâques au lundi de Pâques, Dieu voulant, et nous vivons. Nous allons ainsi, Dieu voulant, être à Berlin le vendredi de Pâques. À Prague, nous serons samedi. À Salzbourg, nous serons dimanche. Et lundi, nous serons à Böblingen, de manière que nous pourrons, par cette tournée, inclure tous ceux qui vivent dans l'éparpillement et que nous espérons que Dieu accordera sa grâce et que plusieurs qui vivent dans ces régions, qui habitent dans ces régions, pourront venir et ainsi avoir part aux réunions. Ensuite, nous avons des informations du monde entier. En ce qui concerne ce que Dieu fait, nous ne pouvons pas mentionner chaque chose dans les détails, mais nous sommes très reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Et quand nous recevons des informations, des exposés, mentionnant que l'adversaire a aussi son jeu, c'est seulement pour que les vrais enfants de Dieu soient manifestés et qu'ils puissent conserver leur position dans la parole et ainsi éternellement croire ce que la parole de Dieu dit et rien d'autre. Je voudrais aujourd'hui lire quelques citations de ce que Dieu, et cela depuis le commencement, nous a accordé. Et je regarde maintenant à beaucoup, beaucoup d'années en arrière. Je vais être bref avec cela, mais seulement pour que vous puissiez recevoir une vue d'ensemble, pour comprendre de quelle manière Dieu nous a accompagnés et nous a accompagnés, et cela depuis le commencement aussi, nous a accordé des révélations et était et à parler parmi nous. Je me suis donc écrit certaines choses, les choses suivantes, et je vais le lire. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, sois attentif à ma grande œuvre que je fais dans ces jours. Cela a été dit le 31 décembre 1991. 66. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, mes enfants, soyez attentifs dans cette heure, car je veux parler avec vous tel que je l'ai fait dans les temps d'autrefois. 31 décembre 1967, mon peuple, mes enfants, mes élus, je vous ai rassemblés à une table garnie, le 11 février 1968. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, mes élus, je suis parmi vous. C'est vrai que vos pieds sont encore ici sur terre, mais vous êtes rassemblés dans un lieu céleste. 2 novembre 1969. De chaque année, j'ai relevé seulement l'un des messages que Dieu nous a donné. J'ai choisi l'un des messages que Dieu nous a donné. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, écoutez ma voix dans ce temps. Vous vivez dans un temps merveilleux et glorieux. De chaque pays, je joins membre avec membre. En tant que pierre précieuse, je les joins ensemble. Pour être mon épouse, pour devenir mon épouse, pour former mon épouse, je les joins. Et cela pas pour la gloire d'un homme. Le 15 août 1970. Ainsi dit le Seigneur, mon peuple, mes enfants, mes élus. Parmi vous, d'une manière puissante, j'ai agi. Le 22 septembre 1971. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple. Parmi vous, j'ai placé le fondement, la pierre angulaire, et il est devenu visible de manière claire pour tous. Et avec jalousie, j'ai veillé sur mon œuvre et je n'ai pas permis que les frontières soient repoussées, soient déplacées le 11 novembre 1972. Voici, ainsi dit le Seigneur, ici est l'endroit de ma révélation, et si parmi vous j'ai un vase et que je l'ai précieusement préparé et paré, garni, et si vous avez conservé la fidélité, soyez attentifs à l'œuvre que je fais et prêtez l'oreille à ma voix. Le 15 juin 1973. Voici, ainsi dit le Seigneur, en tant que petite flamme, mon épouse est ici sur cette terre et elle a été souvent méprisée et la lumière a été placé sous la table. Mais en tant que lumière des nations, en tant que lumière pour les perdus, je vous ai établi. Le 6 octobre 1973. Voici, ainsi dit le Seigneur, saint est cet endroit et saint est mon peuple. Voici,
comment est-ce que je les ai tous appelés. Ils se sont tenus dans la fidélité devant moi et j'ai distribué des dons glorieux et des vêtements glorieux et vous les avez reçus de mes propres mains. Le 27 avril 1974, voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, la décision a été prise. L'heure de Carmel est proche. Le 11 septembre 1974, mon peuple, n'ai-je pas été pour vous, est-ce que je n'ai pas été élevé pour vous, est-ce que je ne suis pas allé à la croix pour vous, est-ce que je n'ai pas tout donné, tout ce qui était nécessaire pour votre salut? Est-ce que je ne vous ai pas accordé de la nourriture? Le 11 janvier 1975. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple. En vérité, vous êtes ceux qui ont entendu le message d'aigle. Vous êtes ceux qui ont écouté des paroles d'ange, mon message, mon évangile éternel qui était déjà avant la fondation du monde. Et voilà, vous êtes le peuple, vous êtes le troupeau qui verront quand la pierre de fête sera placée et que vous arriverez à la perfection, donc à l'achèvement. Le 21 septembre 1975. Voici, ainsi dit le Seigneur, mes saints, mon épouse, rassemblés en cet endroit où j'ai établi mon sanctuaire. J'ai parlé depuis des temps avec vous pour la gloire de ma croix, j'apporterai des perles de beaucoup de pays, et cela pour la gloire de la croix, pas pour la gloire d'un homme. Et vous voyez cela accompli en cet endroit, car mon alliance, l'arc de mon alliance est étendu sur vous. Et je me suis adressé à des peuples et j'ai béni mon épouse et j'ai révélé ma parole. Je l'ai fait sortir de mon sanctuaire. Je l'ai donné de mon sanctuaire. Seulement encore deux. Voici ainsi dit le Seigneur, mon peuple. Je suis sorti pour vous bénir. Je suis venu pour vous bénir et pour vous visiter du haut des cieux. Je suis venu avec la beauté de mon éclat et j'ai parlé avec vous. Demeurez sous l'arc de mon alliance. Demeurez sous mon éclat. Le 21 septembre 1975. Voici, ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, prie pour frère et sœur Schmitt, car je les ai apportés d'un pays lointain pour l'honneur de ma croix. En tant que perle, je les ai établis là-bas où ma tête s'est posée, où ma couronne d'épines était, c'est là qu'ils ont été établis. C'est pour cette raison, prie et adore en cet endroit et prie, adore en cet endroit et prie pour eux. Le 24 septembre 75, peut-être encore celle-ci, voici, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, soyez consolés pendant cette heure, car voici ma grâce est sur vous. Et j'ai planifié cette heure et ces jours. Ma grâce est sur vous et toujours de nouveau, je vous visite. Que vos yeux, si vos yeux pouvaient être ouverts et que vous puissiez voir l'arc de mon alliance étendu à cet endroit en tout temps. Et pas seulement ça, aussi dans la colonne de feu, je suis ici et je suis sur la plateforme. Je suis avec vous. Le 15 avril 1976. J'ai seulement lu, je crois qu'il y en avait 15, ces messages pour vous qui n'avez pas expérimenté les débuts, les années du début, pour vous laisser aussi savoir que Dieu réellement depuis le commencement, était parmi nous et avec nous, a été parmi nous et avec nous. Et même l'interruption qui a eu lieu en 1979, Dieu a utilisé cette interruption pour que encore plus de peuples puissent écouter la parole du Seigneur. En 1979, j'avais eu exactement visité 86 pays et maintenant il y en a 136. Dieu sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il permet, que cela nous plaise ou pas, tout doit passer par Dieu. Et tel que le peuple d'Israël a dû passer par des épreuves et passer par des épreuves, est allé dans la captivité, mais Dieu avait donné la promesse de les ramener. Et quand le temps fut accompli, Dieu a ramené son peuple. Le temple a été de nouveau reconstruit et c'est ainsi que le peuple d'Israël de nouveau a été éparpillé dans le monde entier, dans les années 70, après Christ. Et voilà que à la fin des jours, ils ont été ramenés de 143 pays de la terre. Ils sont revenus dans le pays de la promesse, dans le pays de leur père. Dieu répare tout dégât. Le plus grand dégât que l'adversaire pourrait faire ou bien penser avoir produit. Ce plus grand dégât, Dieu le répare. Et nous croyons que l'Église du Seigneur, toujours plus et plus, comprend que c'est seulement avec la crainte de Dieu que nous pourrons écouter la parole de Dieu et la recevoir révélée. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine et celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est ainsi qu'elle ne pourra pas lui être révélée. Seulement celui qui dans la foi reçoit la parole, c'est ainsi que par l'esprit, elle pourra lui être révélée. Et comme hier soir, déjà de ces citations de frère Branham que je veux encore citer, nous l'avons entendu. Il s'agit de ne pas placer la parole de Dieu de manière incorrecte. Et là, nous devons être attentifs. Où est-ce que, par exemple, il est écrit que quand le Fils de l'homme se révélera? Et où est-ce qu'il est écrit que quand le Fils de l'homme viendra et s'asseyera sur le trône de sa gloire? Il est important d'ordonner toutes choses de manière biblique dans le contexte dans lequel il a sa place. Pour réellement, de manière biblique, avoir toutes choses et redonner toutes choses de manière biblique. Nous avons ici eu à parler de ça. Si, par exemple, les quatre désignations de fils adressées à notre Seigneur dans les Saintes Écritures trouvent leur emploi, fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme, alors cela a une signification. Alors ça veut dire que cela doit être ici. Alors cela appartient à l'ordre divin. À l'ordre divin. Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de ces choses. Mais c'est ainsi. Si par exemple notre Seigneur dit, quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Alors il ne peut pas être écrit ici fils de David. Il ne peut pas être écrit ici fils de Dieu. Alors il faut que ce soit le Fils de l'homme. Car déjà dans tout l'Ancien Testament, en tant que Seigneur, mais dans une forme visible, il s'est révélé parmi les hommes. Déjà dans le jardin d'Éden, il marchait et il a créé l'homme à son image. Il s'est révélé au prophète. Il s'est assis avec Abraham et il a tenu le repas et pris le repas avec lui. Alors, si nous lisons l'expression « fils de Dieu », alors cela a exactement sa place là. Si nous disons « fils de David », cela a exactement sa place là. Si nous disons « fils de l'homme », alors cela a sa place là. Réellement, tout a sa place là où c'est écrit. Et c'est pour cette raison que frère Branham a tenu cet avertissement, a donné cet avertissement très sérieux. Et ensuite, la citation suivante, « de ne pas sortir une parole de son contexte et de ne pas interpréter une parole. » Ça, c'était la destruction de toutes les dénominations. Elles ont interprété et interprété la parole de Dieu jusqu'à que de la parole, rien n'est resté. Et ce qui est resté, c'était que les interprétations. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, toute la chrétienté, toutes les églises et les églises libres et les églises dans lesquelles des interprétations qu'elles ont faites elles-mêmes et qu'elles ont transmises existent, ils se sont eux-mêmes rendus captifs et emprisonnés dans leurs propres interprétations. Et c'est peut-être raison qu'il faut que la vraie parole soit prêchée, la parole originale, pour que les hommes aient la possibilité de sortir des interprétations et d'être ravis dans la liberté des enfants de Dieu. Les autres 5 points, je veux aussi encore les relire de la bouche de frère Branham. Citation. Il faut que cela ait lieu en son temps. Le Seigneur a dit, votre temps est toujours, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il faut que cela soit en son temps et en accord avec sa parole et sa volonté. Et c'est peut-être raison que en cet endroit, nous allons jamais avoir un propre programme, mais seulement être une partie de ce que Dieu fait. Nous allons rester seulement une partie de ce que Dieu fait et jusqu'à la fin, Dieu va en cela accorder sa grâce. Le deuxième point, la citation. Il faut que cela soit en accord avec sa parole. Il faut qu'on puisse l'examiner dans les Écritures. Si, par exemple, nos frères et sœurs aberrés, alors que les apôtres prêchaient, sondaient les Écritures, alors ce n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas ce qui avait été prêché. Non, il le croyait. Il croyait ce qui avait été prêché. Mais il voulait être sûr que leur foi est ancrée dans les Écritures. Il voulait être sûr qu'ils peuvent ancrer leur pied de la foi dans les Écritures et pas seulement croire quelque chose parce que Paul l'a dit, mais croire parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est Dieu qui, dans sa parole, l'a dit. Ensuite, nous avons encore ici ce point. Il faut que ce soit la personne de son choix. Dieu, c'est Dieu qui fait un choix. Dieu avait fait un choix avec Abraham. Abraham, qui vivait en Ur et Chaldienne, oui, il servait d'autres dieux ensemble avec Tara et tous les autres, oui. Et subitement, le Seigneur vint et l'a visité. Un appel, une élection, un envoi, tout en une seule fois, reçu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a transmis des hommes qui avaient une relation et une liaison personnelle avec Dieu et tous dans leur témoignage sont en accord l'un avec l'autre. Quand nous pensons dans quel laps de temps l'Ancien Testament a été écrit et les différents écrivains dans différentes époques et âges en différents endroits ont vécu et malgré tout, tout l'Ancien Testament dans une harmonie glorieuse est écrite. Est écrit. Encore ce point que frère Branham a relevé. Il faut que d'abord cela soit révélé à son prophète ou bien au pluriel, au singulier, au pluriel. Cela soit révélé à son prophète, à ses prophètes. Dieu a toujours eu d'abord un prophète et ensuite il y a eu dans le pluriel des prophètes que Dieu n'avait pas envoyé et n'avait pas utilisé. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit. En ce qui concerne les faux prophètes, il n'est pas écrit une seule fois l'expression serviteur. Pas une unique et pas une seule fois. Partout où on lit dans le prophète Jérémie, dans le prophète Ézéchiel, dans toute la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, seulement à, en relation avec les vrais prophètes, nous avons, n'est-ce pas, le résumé, l'expression, mes serviteurs, les prophètes, ne faites pas de mal à mes oints, à mes prophètes, ne touchez pas à mes oints. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que Dieu a avait ses serviteurs, les prophètes. Prophètes pour recevoir la parole, serviteurs pour servir le Seigneur et ainsi en transmettant la parole au peuple de Dieu. C'est ainsi que Pierre écrit concernant les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne se sont pas servis eux-mêmes, mais c'est pour nous à qui la grâce de Dieu est venu. Et ensuite, l'apôtre Paul écrit et parle de ce qui s'était passé dans les âges, tout ce qui était resté caché dans les âges passés, dans les temps passés. Dieu l'a maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par le Saint-Esprit. Lisez combien de fois Paul de lui-même utilise l'expression serviteur. Serviteur, esclave, moi un apôtre de Jésus-Christ, un esclave, un serviteur. Partout, il s'est désigné en tant que serviteur. Déjà tout de suite, ici dans la première épître adressée aux Romains. Comme il est dit ici, moi, Paul, un serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1, verset 1. Et maintenant arrive la raison. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Pas un évangile quelconque, mais l'évangile de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons l'accord parfait avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cela des différentes annonces à l'avance et promesses jusqu'à leur accomplissement, jusqu'à l'achèvement, quand le Seigneur achèvera son œuvre de la rédemption telle qu'il a achevé son œuvre de la création. Tout est sous son contrôle, même si cela dure beaucoup pour nous. Mais imaginez-vous, Dieu pour nous. Imaginez-vous si, par exemple, le temps de la grâce, les portes de la grâce se seraient fermées il y a 40 ans d'ici. Combien seraient restés dehors? Sommes-nous pas reconnaissants pour chaque jour que Dieu nous accorde encore? Ne sommes-nous pas reconnaissants pour chaque âme qui peut être encore appelée à sortir? Et encore pour mentionner cela, même quand on utilise l'expression, on rencontre l'expression moisson ou récolte dans les Saintes Écritures, on doit être exactement attentif pour savoir, pour différencier, faire la différence. Quand est-ce que le Seigneur parle de la récolte, de la moisson qui est récoltée pendant tout le temps du temps de la grâce? Et quand est-ce qu'il parle de la moisson à la fin des temps? Et ça, c'est aussi important. Si, par exemple, dans l'évangile de Luc, nous lisons, nous avons ici la question ou bien la demande que le Seigneur puisse envoyer des travailleurs dans sa moisson. Je voulais dire, oui, ce serait donc, dans ce cas, Luc chapitre 10. Ici, il est écrit, Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller ou pensait aller. Ici, nous avons ici le premier point. Le Seigneur envoie ses messagers dans le pays, dans la ville, dans laquelle lui-même il viendra et veut venir. Il les envoie et il va avec eux. Il les envoie pour et il va avec eux. Les hommes voient que le messager, mais Dieu envoie le messager pour apporter son message. Son message. C'est ainsi que aussi avec le frère Branham, nous l'avons expérimenté et vu. Il était le messager qui devait apporter un message. Et comme tous les prophètes, il était comme tous les prophètes, tel que tous les prophètes étaient la bouche de Dieu. C'est ainsi que frère Branham, dans notre temps, était la bouche de Dieu. Mais maintenant, écoutez ce qui est écrit encore ici, dans le verset 2, dans Luc, le chapitre 10. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, ici, il envoie, il leur dit de partir pour ensemencer et ensuite pour récolter la moisson. Si, en comparaison avec cela, nous allons dans Matthieu, le chapitre 3, et lisons ce que Jean-Baptiste a prononcé de manière prophétique. Et en regard à la fin, a dit, lisons les choses suivantes, ici dans Matthieu, le chapitre 3, à partir de verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ensuite, écoutez très bien, au verset 12, il a son vin à la main. Il nettoyera son nerf et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est déjà la fin. Pas ce qui se passe dans le déroulement des 2000 années est déjà derrière nous, mais ici, l'homme de Dieu parle, touche et mentionne déjà ce qui va se passer à la fin. Lisons cela dans Matthieu chapitre 13. Ici, nous avons plusieurs fois reçu dit ce qui va se passer à la fin. Le Seigneur va nettoyer fondamentalement son air. Nettoyer son air. Et à la fin, il ne s'agira pas seulement de travailleurs. Dans la vigne, nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Ici, il est parlé de la moisson. Et dans Matthieu 13, nous lisons à partir du verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et c'est seulement maintenant, pour la fin, qu'il est parlé des moissonneurs qui sont des anges. C'est très important qu'on puisse savoir quel temps il est fait mention ici, quand la parole de Dieu nous dit quelque chose. Ensuite, cela continue au verset. J'ai des difficultés. Oui, au verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Pas à l'intérieur de tout le temps de la grâce, mais à la fin, dans le dernier acte de temps, à la fin, ce sera ainsi. Mais écoutez ce qui va se passer à la fin. Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ce n'est pas le moissonneur qui ont été envoyés. Ce n'est pas les ouvriers qui ont été envoyés. Ce sont les anges qui le feront. Ce n'est pas notre devoir en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, en tant que moissonneur, de citer un nom, le nom d'un frère et de dire, il fait ceci et il fait cela et il est dans l'erreur. Ce n'est même pas notre devoir. Notre devoir, c'est de prêcher la parole, l'évangile éternel de notre Dieu et tout le reste. Dieu lui-même en son temps le fera sans que nous ayons besoin de nous inquiéter. Et ici, nous avons la parole iniquité. Ou iniquité, ouvrier d'iniquité. Et cela, il y a toujours une parole clé pour chaque contexte dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu 7, nous avons la même parole que le Seigneur prononcera à ceux qui avaient approuvé les signes, les miracles, les prodiges et les bénédictions qui ont eu lieu dans leur ministère. Mais déjà avant du Seigneur lui-même, ils ont été désignés comme faux prophètes. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Et ensuite, le Seigneur dit au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ensuite, cela est au verset 20. Ensuite, au verset 21, il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 23, nous lisons de Matthieu 7. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faire des signes et des miracles, et malgré tout, être ouvrier d'iniquité. Et avec cela, on doit obligatoirement aller à tous les versets bibliques, jusqu'à même 2 Thessaloniciens chapitre 2, où il est parlé de l'Antichrist en tant que l'ouvrier d'iniquité au singulier, qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu et culte rendu à Dieu, et qui lui-même se désigne Dieu, se fait un Dieu, se donne comme un Dieu. Donc, ces hommes-là étaient dans le même enseignement, dans la même influence de l'Antichrist, de cet homme d'iniquité, de cet ancien. Eux-mêmes, ces gens, ils n'ont pas accepté la correction. Et alors, nous ne voulons pas devenir personnels sans porter un jugement. Nous ne voulons pas arracher ou déraciner. Nous voulons laisser tout jusqu'à la moisson. Mais tous ces hommes-là, dans tous les mouvements charismatiques et réunions qui existent ici et là, ils peuvent tous même se mentionner de frère Branham. Peut-être pas dans la troisième vague, mais dans la première et la deuxième vague de réveil. Ils peuvent tous se mentionner de frère Branham. Mais ils l'ont désigné devant le peuple en tant que faux prophète, en tant que faux, pas faux prophète, mais en tant que faux dans l'enseignement. Donc, ils ont dit qu'il a un faux enseignement qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas croire. Ils ont averti le peuple. Même 12 Plessis, qui avec Mister, qui était avec Mister Pentecôte dans les années 60 déjà était et au Vatican, à Rome. Il s'est levé devant tous et il a dit, nous savons, j'étais avec eux là-bas, et il s'est levé, il a dit à tous, nous savons que frère Branham est un prophète, mais son enseignement est du poison pour le peuple. Et imaginez-vous, essayez de mettre cela ensemble, c'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Si un homme est un prophète, alors il est la bouche de Dieu, alors il a la parole de Dieu reçue, révélée, et l'écriture rend témoignage de ça, que il est la bouche de Dieu. Mais, cela continue encore, bien-aimés frères et sœurs, dans les actes des apôtres, cela est arrivé au moment où on a dit aux apôtres, vous n'avez pas le droit, plus le droit de prêcher au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit au nom de Jésus. Vous connaissez tous les actes des apôtres, vous pouvez le lire. La persécution a apparu et l'ordre et l'interdiction a été prononcée de cette manière de ne rien dire au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Actes des apôtres, le chapitre 4 et le point culminant est ici dans le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. D'enseigner au nom de Jésus. Ici, nous l'avons. Mais notre Seigneur, dans Matthieu 28, avait dit, allez dans le monde entier et enseignez tous les peuples à observer tout ce que j'ai prescrit. Enseignez tous les peuples. Et maintenant, ici, les apôtres ne devraient plus avoir le droit d'enseigner au nom de Jésus. D'enseigner en utilisant le nom de Jésus. Bien, mes frères et sœurs, je le dis aujourd'hui, tous les mouvements charismatiques repartent dans l'œcuménique et repartent, sont dans l'œcuménique et repartent à Rome. Et le moment arrive, et frère Branham l'a dit, il y aura dans le dernier abs de temps pendant que ces grandes choses auront lieu dans l'Église, que on nous interdira de prêcher parce que nous appartenons pas aux communautés mondiales, à toute cette globalité, et que nous ne nous soumettons pas à Rome et n'acceptons pas le baptême romain. C'est comme ça qu'il est écrit dans les actes, dans le catéchisme romain. Il est parlé de la confession du baptême catholique dans la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une confession du baptême catholique. Nous ne croyons pas à une confession de baptême catholique. Nous croyons à la confession de baptême telle qu'elle nous a été transmise dans les Saintes Écritures. Et chaque baptême, depuis le fondement de l'Église du Nouveau Testament, a eu lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si l'Église catholique enseigne que tous ceux qui, dans la forme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont baptisés, n'ont pas encore une fois de se laisser encore baptiser, de se rebaptiser. Ce baptême suffit parce que avec ce baptême-là, ils sont déjà baptisés dans le baptême catholique, dans l'Église catholique. Ce baptême a sa valeur dans l'Église catholique. Un luthérien, s'il veut être catholique demain, il n'a pas le droit de se rebaptiser. Il n'a plus le droit, il n'a même pas besoin. Il est déjà baptisé tel que cela plaît à l'Église catholique. Et maintenant, écoutez bien, et cela au nom du Seigneur, l'appel à sortir et la séparation va être écouté seulement et obéi par ceux qui vraiment ont compris que c'est pas un frère Branham qui un jour a décidé, bon, maintenant je veux commencer à prêcher, mais que c'était le Dieu Tout-Puissant qui est descendu et qui, avant le retour de Jésus-Christ, a ramené le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques au commencement. Et là, nous pensons réellement à la parole de 1 Roi, chapitre 18, au verset 37. Alors que le prophète Élie avait rassemblé le peuple et avait édifié l'autel, rétabli l'autel et apporté le sacrifice, et devant Dieu le Seigneur, il a apparu dans la prière. Laisse manifester aujourd'hui que tu es le vrai Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et ensuite, la confirmation vint du ciel. Et ensuite, il est écrit, tout le peuple est tombé sur sa face et a donné l'honneur à Dieu. Parce que le Seigneur avait ramené leur cœur à lui. Nous aussi, nous devons ici faire la différence. Il y a beaucoup à l'intérieur du message qui exagèrent de même dire le message. C'est chaque citation du frère Branham. Et réellement, ne s'occupe plus des citations de la Bible. Et alors nous avons le privilège devant le Dieu Tout-Puissant de dire chaque prédication que l'homme de Dieu a tenue, il les a tenues sortant des Saintes Écritures. Et c'est ainsi que ces prédications nous ont ramenés dans les Saintes Écritures. Et c'est ainsi que nous croyons selon les Écritures. Et à cela, nous pouvons seulement que remercier Dieu pour cela, de ce que nous avons ce privilège très sobre, de rester sobre, et tout ce que Dieu nous a promis et nous a accordé dans la foi, l'accepter et le recevoir. Si, alors en cet endroit, nous devons parler ouvertement et clairement, c'est seulement pour réveiller, pour que le dernier comprenne que l'enseignement est sorti de Jérusalem et n'est pas sorti de Rome. Et que la parole de Dieu est sortie de Jérusalem et pas d'un autre endroit. et que nous avons la grâce de revenir à l'enseignement primitif, original. Nous devons revenir à la source pour que la prédication d'aujourd'hui soit comparable avec la prédication d'hier et en accord total et en harmonie parfaite. Il faut qu'il y ait une harmonie divine dans la prédication du commencement jusqu'à la fin. De la même manière, nous savons que des scandales doivent venir. Et ça, le Seigneur l'a aussi dit dans Luc 17, au verset 1, qu'il y aura des scandales qui viendront. Mais malheur à celui par lequel ce scandale arrive, et qu'une telle personne, il serait mieux pour elle qu'on lui mette une mule sur le cou et qu'on le jette dans la mer, que de plutôt être un scandale pour l'Église et devient un scandale pour elle, et bien sûr apporter du désordre et des divisions, assez de divisions partout. Ici est le point. Chaque vrai enseignement unit le peuple de Dieu et le rassemble. Jusqu'à que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ici, personne n'a besoin de donner raison à un homme. Ici, nous donnons seulement raison en cet endroit à Dieu. Chaque enseignement qui ne vient pas de Dieu apporte des divisions. Toute autre chose vient et arrive et se passe. Et cela arrive même que dans la même ville, deux, trois croyants vivent là et n'ont même pas de contact. Et il peut y avoir même plusieurs églises dans la même ville. Alors que j'étais la dernière fois, le mois dernier, à Tucson, on m'a dit combien d'églises dans le message existent dans la ville Tucson. Je vais vous dire que j'ai remué la tête et je ne pouvais pas moi-même le croire et le comprendre. Et là, nous sommes arrivés à ce point pour, de manière biblique, l'exprimer. Si Paul a écrit aux églises, aux Corinthes, à Éphèse et partout où cela était, alors ce n'était pas à deux églises à Corinthe ou bien, mais à une seule église en un seul endroit réunie. Et cette église réunie dans cet endroit est l'appui et le pilier de la vérité. Et là, le mensonge n'a pas de place et des faux prophètes n'ont pas non plus de place dans la vraie église. Des fausses prophéties et enseignements n'ont pas de place dans la vraie église. Seulement Dieu a le saint droit, en accord avec sa parole, d'agir et de parler. Et là où Dieu est présent et agit, là il y a l'union dans l'esprit. L'esprit de Dieu conduit et joint ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez constaté et remarqué, mais je le remarque, que l'amour les uns avec les autres devient toujours plus profond, plus fraternel, vient toujours plus de tout le cœur. Soyez sincères. Est-ce que nous pouvons encore vivre l'un sans l'autre? Nous serons, n'est-ce pas, ensemble dans la gloire, assis à une même table. Et ensemble, nous allons avec le Seigneur fêter le repas, le souper. Est-ce que nous pourrions le faire si ici nous hésitons, nous évitons, et peut-être même nous tournons le dos quand nous nous voyons. Si Dieu, lui, nous a tourné sa face, alors nous voulons aussi nous tourner la face l'un à l'autre et aller l'un vers l'autre et nous regarder dans les yeux et nous recevoir tel que Dieu nous a reçus en Christ, jusqu'à que nous parvenions à l'union parfaite de la foi. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, tous soient un, tel que toi, Père, tu es en moi, et que moi, je sois en eux. Alors, c'est ainsi que nous ne pouvons plus connaître quelqu'un selon la chair, mais selon l'esprit. Et tous ceux qui marche selon cette règle. Paul le dit dans les derniers versets de Galates 6. Il est dit que sur eux viennent la paix et la bénédiction de Dieu. Il y a une règle à suivre et à suivre, selon laquelle nous avons à nous conduire et à marcher. Encore cette pensée principale, le ministère de nos frères était en cela arrivé à son point culminant, de ce que ce n'était pas seulement l'enseignement qu'ils avaient adressé, apporté à des assemblées locales, des instructions, comment est-ce que tout doit se dérouler avec les dons et ceux qui ont des dons des ministères et les anciens et les diacres et les responsables. L'objectif de la véritable prédication est que une église sans tache, sans ride, irréprochable, soit prête lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, nous sommes dans le point arrivé, même si nous connaissons tous les mystères et nous pouvions mettre tout à sa place, tous les versets dans le contexte et que nous pouvions croire, avoir une foi pour déplacer des montagnes. 1 Corinthiens 13. Mais que nous n'avons pas le vrai amour de Dieu, déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Malgré tout cela, nous sommes qu'une cymbale qui retentit. Donc, Dieu veut faire en sorte qu'en nous, tout devienne tel que c'était au commencement. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Si Pierre, par exemple, dans 2 Pierre 3, au verset 14, écrit et dit que nous devons marcher devant le Seigneur et être trouvés par lui dans la paix, sans tache, sans rite, alors que Dieu le Seigneur puisse nous l'accorder. Si par exemple Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2 et 3 écrit que je veux vous conduire à Christ en tant qu'une vierge chaste pure, alors acceptez-le. Acceptez-le. Et soyez attentifs. Dans le prochain verset, il dit dans ce chapitre, mais je crains que tel que Ève s'est laissé séduire, je crains que vous aussi, vous vous éloigniez de la simplicité par rapport à Christ. Qu'est-ce que c'est? Dieu se révèle dans la simplicité. Et nous devons servir le Seigneur, le suivre et croire, seulement croire, ce que les Écritures ont dit, aussi en relation avec l'achèvement, la perfection, l'appel à sortir de l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, nous avons la description des ministères pour que tous parviennent à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Encore une fois, pour le résumé, Dieu a donné la promesse avant que le temps de la grâce arrive à sa fin et que le jour du salut n'existe plus et que les portes soient fermées. Il a promis dans cet âge d'apse de temps prophétique, il a promis d'envoyer un prophète. Et ça, lui-même, il a dit, voici, je vous envoie. Malachi 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon ange, mon messager devant moi. Et ensuite, voici, je vous envoie le prophète Élie. Et ici est le point. On peut poser la question. Et d'autres peuvent te poser la question à toi et à moi. Est-ce que vous pouvez prouver que cet homme est tel homme que Dieu a promis? Toi et moi, nous n'avons rien besoin de prouver. Nous avons seulement besoin de la part de Dieu de le recevoir révélé. Et ça ne peut pas être compris. Ce sera seulement des discussions. Combien de fois nous avons eu à le dire? Là où on discute encore, ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation. Là où il y a la révélation, on n'a pas besoin de discuter. Et c'est ainsi que nous avons la grâce, aussi par la grâce de Dieu, aussi en ce qui concerne ces choses, de faire confiance au Seigneur. Comment est-ce qu'ils ont su autrefois qui est Jésus? Le Seigneur a parlé à Pierre et a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. mais mon Père qui est au ciel. Et notre Seigneur dit encore aujourd'hui, dans Matthieu 11, personne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut le révéler. À qui il veut le révéler. La révélation vient pas par des discussions. La révélation vient au moment où tu crois la parole de Dieu de tout ton cœur. Et elle vient dans la présence du Seigneur. Et nous avons compris et lu ici, les disciples marchaient avec le Seigneur et leur cœur brûlait parce que il parlait et il a parlé avec eux. Seulement encore pour des saintes écritures, en ce qui concerne l'ange de l'Alliance, vous montrer, je veux encore vous le donner, Apocalypse 4 et ensuite aussi Apocalypse 10, peut-être pour un peu mieux le voir des saintes écritures et le reconnaître. Ici, dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, nous lisons à partir du verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 3. Trois expressions sont faites. Ange du Seigneur, Seigneur et Dieu. Toutes les trois désignations sont faites dans ce contexte-là. Ange du Seigneur, Seigneur, ange du Seigneur, Seigneur et Dieu. Ici dans Genèse 3. Mais ici parce qu'il s'agissait d'un message. Apporté, il est en tant qu'ange de l'Alliance désigné. Et je continue à lire à partir du verset 31. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. En haut, nous avons lu, un ange lui apparut au désert dans la flamme d'un buisson en feu. Et ici, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères. C'était l'apparition du Seigneur. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une sainte terre, est une terre sainte. Bien, mes frères et sœurs, quand Dieu parle avec nous, l'endroit, le lieu est aussi sanctifié par sa présence. Par sa présence, l'endroit est saint. Et ensuite, nous lisons au verset 35, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui, justement, que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange, en allemand, avec la médiation de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Et maintenant encore, le verset 37, c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner. Moïse recevait, il était ici comme un médiateur entre l'ange et le peuple. Dieu le Seigneur, en tant que en forme d'ange, l'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel, parlait et Moïse recevait les paroles. Et si ensuite nous allons dans Apocalypse, le chapitre 10, où il est parlé de l'ange, de l'Alliance et de l'arc, c'est le signe clair de l'Alliance. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Apocalypse, le chapitre 4, l'arc-en-ciel est étendu sur celui qui est assis sur le trône, a apparu sur celui qui est assis sur le trône. Et ici, dans Apocalypse, le chapitre 4, oui, il est écrit, oui, nous lisons à partir du verset 2, ou bien non, la dernière partie du verset 1, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre et de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, il y avait un qui était assis sur le trône, et l'arc-en-ciel l'environnait. Ensuite, nous avons, s'il vous plaît, après l'ouverture des sceaux, tels que ici dans le chapitre 5 et 6 et 7 et 8, de manière claire, cela est décrit jusqu'au chapitre 9. Ici, il nous est dit jusqu'au chapitre 10, à partir du premier verset, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, etc., etc. » Donc, nous laissons chaque verset biblique tel qu'il est écrit, tel qu'il est. Nous le laissons à sa place, là où il est écrit. Et nous respectons la parole de Dieu jusqu'à dans les petits détails et ces petits iotas. Ici, le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, nous est montré tel que dans Malachie 3, il est écrit. Et l'ange de l'Alliance viendra à vous, le Seigneur, que vous désirez, vient sans manquer. Malachie 3, le premier verset. Bien, mes frères et sœurs, l'harmonie dans cette parole est tellement convaincante et tellement puissante que il n'y a plus rien d'autre qui nous manque à faire que de remercier Dieu. Ça n'a pas d'importance quel sujet, que ce soit la fin des temps, que ce soit la moisson, la récolte, que ce soit l'appel à sortir, la séparation. Et vous savez, aussi en ce qui concerne l'appel à sortir, justement parce que je suis en train d'être rappelé de cette pensée dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, cela est écrit, 2 Corinthiens, le chapitre 6. Ici, nous avons justement la parole iniquité. La parole iniquité. Arrière de moi, vous ouvriers d'iniquité. Et ici, nous avons encore une fois écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug, avec les incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre la lumière. Bien, frères et sœurs, celui qui trouve dans les Écritures, les paroles clés et qui est conduit par le Saint-Esprit dans toutes les Écritures, dans toute la vérité. C'est ainsi que c'est à lui que Dieu accorde la révélation et la vue d'ensemble sur tout le conseil du salut de notre Dieu. Nous pourrions encore aller dans les différents sujets. Les apôtres avaient réellement des difficultés avec tous les faux frères et les faux enseignements et les faux docteurs, et rien n'a été annoncé à l'avance si clair, a été annoncé si clairement à l'avance que ça, que le vrai et le faux, la vraie chose et la chose fausse seront si proches l'un de l'autre, si proches que même si c'était possible, les élus seraient séduits dans l'erreur et la confusion. Matthieu 24, verset 24. Et c'est peut-être raison que l'avertissement est donné et l'exhortation de réellement entendre le message de l'heure, l'appel à sortir à tout et de se séparer de l'iniquité et de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, de se séparer de l'iniquité de tout ce qui se passe. Et disons les choses telles qu'elles sont. Tout le mouvement charismatique, sans considérer quelle couleur il pourrait avoir, tous sont dans l'enseignement de la Trinité, tous sont dans le baptême trinitaire et tous dans leur propre programme. Et malgré tout, ils disent qu'ils ont la confirmation de Dieu, car ceci et cela se passe parmi eux. Et la plupart du temps, rien ne se passe. Pas tant de choses se passent comme ils le prétendent, mais le problème consiste à ce que, réellement, ils pensent en eux-mêmes que Dieu, par ce qui se passe là, les a confirmés. Est-ce que Dieu va confirmer un homme qui est dans l'erreur? C'est pas possible. Et nous voyons que si dans notre temps, toutes ces choses-là se passent et arrivent, alors Dieu nous a prévenus à l'avance. Il nous a accordé la grâce de faire la différence des choses, de ne pas regarder aux miracles, aux prodiges et aux signes, mais de regarder au Seigneur. Et que nous puissions recevoir sa parole, la respecter et la recevoir révélée. Et c'est en cela que nous reconnaissons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, car il nous a fait connaître ses voies. S'il vous plaît, pensez à ce que frère Branham, avec tout le sérieux, a dit. Chaque parole l'a laissée là où elle est écrite, telle qu'elle est, dans le contexte dans lequel elle est, elle appartient d'être. Tout cela forme une union, toutes les écritures, mais il faut que cela nous soit révélé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est notre souhait profond. D'être enseigné par Dieu et par le Saint-Esprit, être conduit jusqu'à que, en tant qu'Église épouse, nous soyons remplis du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, revêtus et ainsi prendre part au dernier laps de temps de son œuvre, prendront part et se déroulera. Tel que nous le savons, la parole de Dieu est notre absolu. Et celui qui a commencé son œuvre, il achèvera aussi. Et celui qui a donné l'ordre, le mandat, il disait, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du retour du Christ, de la venue du Christ, la première venue du Christ, c'est ainsi qu'avec un message, tu seras envoyé. Qui sera précurseur du retour du Christ? Un écriteau, quelqu'un qui est indicateur, qui ouvre les prisons, qui prêche la liberté aux captifs pour que tous reçoivent le secours dans le jour du salut. Nous pouvons seulement dire que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le Seigneur dit encore aujourd'hui à nous tous, avez-vous compris tout cela? Dites Amen. Si le Seigneur aujourd'hui posait cette question aujourd'hui, avez-vous compris le contexte des choses? Avez-vous compris ce que le Seigneur aujourd'hui, ici, voulait nous dire? Regardez au but tel que nous l'avons lu hier et tel que frère Branham, d'une manière si claire, l'a dit. Seulement, celui qui a le but aux yeux, devant les yeux, l'atteindra. Ne regardez pas aux difficultés. Ne regardez pas à droite et à gauche, mais regardez au but. Et Paul dit, nous qui avons le but devant les yeux, nous voulons regarder à lui, à notre Seigneur. Et à cela appartient que Dieu puisse s'accorder sa grâce à tous, tel que Paul l'a dit. J'oublie ce qui est derrière moi, j'oublie ce qui est derrière moi, et je regarde à ce qui est devant moi, au but. Que cela nous soit accordé à tous, de ne plus regarder en arrière, mais de regarder à l'avant. Notre Seigneur va accomplir son œuvre avec son Église. Il achèvera pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que cela est écrit. Ça, c'est notre absolu. Et c'est ainsi que nous le croyons. Que Dieu le Seigneur, Dieu le Seigneur est présent. Dieu le Seigneur a consacré cet endroit pour parler à son peuple. Et pour que par sa parole et son esprit, nous soyons conduits dans toute la vérité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui avec Abraham, avec Moïse, avec Élie, avec tous les prophètes, qui avec Jean-Baptiste, avec frère Branham, avec Paul, qui avec tout a parlé. Il a aujourd'hui et hier parlé avec nous et déjà souvent parlé avec nous. Et à lui, nous allons maintenant ensemble apporter l'adoration et la louange. Amen. Nous nous levons pour la prière. Peut-être que nous chantons ce cœur. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Nous voulons le chanter de tout notre cœur dans la prière. Viens du haut des cieux. Viens Esprit du Seigneur. Souffle et agis, ne reste pas loin de nous. Souffle et agis. Oh, ne reste pas loin de nous. Feu divin, effuse-toi. Répands-toi. Tu nous es cher. Don céleste. Tu nous es cher, don céleste. Tous ensemble, baptise-nous du haut des cieux. Pour que sur nous, ta sainte flamme soit visible. Pour que ta sainte flamme soit vue sur nous. Peut-être que nous demanderons aux deux sœurs de nous chanter ce cantique. Es-tu prêt pour l'heure? C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons, dans la prière, persévérer. Et déjà maintenant, nous voulons dire et demander de venir au Seigneur avec tous les problèmes et tout ce que nous avons. Personne n'a besoin de repartir avec ses problèmes, avec sa maladie, avec ses péchés. Le Seigneur est ici, est présent et il veut que nous lui apportons tout. Les jours de la Bible sont de nouveau parmi son peuple, sont encore parmi son peuple. Le Seigneur parle avec nous tel qu'il le faisait directement. Comme s'il parlerait directement avec nous, s'il était ici, visiblement avec nous, devant nous. Respectez sa parole. Respectez sa parole. Et nous allons ensuite ensemble remercier le Seigneur. Mon Dieu. Es-tu prêt pour cette heure, quand Dieu prendra les siens dans la gloire? As-tu entendu le message comment est-ce qu'il récompensera les siens. Quand il apparaîtra dans les nuées, dans sa majesté et sa beauté, je ne peux pas le prononcer avec des paroles. Mon cœur loue et exalte. Marchant glorieux sur des pavés d'or, sur des rues pavées d'or, dans le pays céleste. Comme ses œuvres sont merveilleuses. Glorieux, habillé en vêtements blancs. Peux-tu comprendre l'amour que Jésus t'offre? Es-tu en paix avec lui? Si Jésus venait encore aujourd'hui, il a préparé la demeure pour le troupeau dans la tente qui toujours fidèlement combattent pour lui. Le jour promis arrive. Jour glorieux, marchant sur des rues pavées d'or, dans le pays du Père. Comme ses œuvres sont merveilleuses. Marchant glorieux en vêtements blancs. Plus rien n'est resté des douleurs. La moquerie et l'opprobre sont passés. Jésus veut t'aimer en tout temps. Que cela soit ma solution. Veux-tu avec lui aller dans la gloire? Veux-tu voir Jésus un jour? C'est seulement lui qui te fait entrer dans cette belle ville. Tu as seulement besoin de venir à Jésus. Marchant glorieux sur des rues pavées d'or, dans le pays du Père, comme ses œuvres sont merveilleuses. Merci. Remercié soit notre Seigneur. Encore aujourd'hui, il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Oui. Si parmi nous, il y a encore des amis qui n'ont pas encore expérimenté de conversion et qui n'ont pas encore consciemment consacré leur vie au Seigneur et qui n'ont pas encore pour leur personne dans la foi accepté l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, ne repartez pas à la maison ainsi dans cet état. Venez au Seigneur. Venez aujourd'hui, chaque jour vécu sans lui est un jour perdu. Ainsi que Dieu puisse accorder sa grâce. Pendant que nous courbons les têtes, je voudrais demander combien veulent consacrer leur vie au Seigneur. Avons-nous quelques-uns ici? Que Dieu vous bénisse. Je pense particulièrement à tous les jeunes. À tous les jeunes qui peut-être ont un combat intérieur et ressentent que le Seigneur les appelle, mais ne sont pas encore, non pas encore, ne pouvaient pas encore comme ça pénétrer d'une manière que son esprit pouvait rendre témoignage à leur esprit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit dans l'évangile de Jean au premier chapitre. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Nous avons la grâce de croire en son nom, car c'est ainsi qu'il est écrit, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes sous le ciel en dehors du nom de Jésus, qui de cette terre, de ce monde a été tant méprisé. Mais ce nom qui est le nom le plus précieux pour nous, le nom au-dessus de tous les noms, dans lequel tout le salut est contenu. Jésus-Christ, roi, sacrificateur et prophète, sauveur, rédempteur et celui qui guérit, il est tout en tous. Nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi, même si nous n'appelons pas à venir devant, vous savez, n'est-ce pas, que le Seigneur vous appelle et que vous pouvez venir à lui. Combien sont ici qui ont des problèmes de maladie? Nous voulons aujourd'hui croire. Simplement croire. La foi est la victoire qui a vaincu déjà le monde. La foi détend le bras de Dieu. La foi devient un absolu, tel que frère Branham l'a dit de manière si claire. Si nous ancrons notre foi dans les promesses de Dieu, c'est ainsi que nous avons l'absolu divin. Nous ne tâtonnons plus dans les ténèbres, mais nous avons la révélation reçue. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est ainsi qu'il a ôté toutes nos transgressions de nous et il a anéanti la lettre de condamnation et il a versé son sang. Il a donné sa vie pour que nous puissions passer de la mort à la vie, être délivrés et pardonnés de tous nos péchés et recevoir la vie éternelle. Qui veut encore plus? Est-ce que Dieu a pu encore faire plus que ça? Que de lui-même directement apporter le salut à l'humanité perdue? Il est venu lui-même à nous. Il est venu lui-même à nous. Et il nous a apporté le salut. Acceptez simplement ce salut. Nous voulons chanter ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Et nous allons prier.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Nous voulons ensemble prier. Père céleste, nous venons devant le trône de ta grâce, et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous te remercions pour Golgotha, pour l'œuvre accomplie de la rédemption, pour le pardon de nos fautes et de nos péchés. Nous te remercions pour la vie éternelle, pour la réconciliation, pour le plein salut. Ô bien-aimé Seigneur, sauve tout ce qui est perdu. guéris tout ce qui est malade, délivre tout ce qui est lié, car l'Esprit du Seigneur se repose sur nous, pour que nous puissions annoncer aux captifs la délivrance, et aux malades la guérison, et aux perdus la délivrance, le salut, aux perdus le salut. C'est l'œuvre de Dieu, en nous et par nous tous. Bien-aimé Seigneur, confirme ta parole et bénis ton Église. Alléluia. Ô Dieu, je te demande pour tous ceux, je te prie pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux dans le monde entier, sur toute la terre. Accorde la révélation par ton Saint-Esprit. Conduis ton Église dans la foi à aller de l'avant. Que toi-même tu puisses avoir ton chemin avec nous. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis-nous et donne-nous d'être une bénédiction pour les autres. Accorde-nous. Particulièrement tous les frères dans le ministère. Que tu puisses les bénir. Dans tous les peuples, les langues et les nations. Et que ta parole ne revienne pas vide à toi. Et sans effet à toi. Mais qu'elle produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Ici, aujourd'hui. Et partout. Et jusqu'à dans toute éternité. Bien-aimé Seigneur, tu nous as préparé l'endroit. Et tu reviendras. Tu nous as préparé une demeure. Et tu reviendras. Nous croyons que cela va se passer bientôt. Et cela dans notre temps. Nous te remercions de ce que nous avons la grâce de reconnaître les signes des temps. Et que nous avons la grâce de voir l'écriture sur le mur. Sur la muraille. De manière si claire. Nous te remercions pour la parole prophétique. Et que tout le peuple loue et exalte le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dites reconnaissance à Dieu. Et louez son saint nom. Louez la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Pouvons chanter Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que tu sois le premier et le dernier.
Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja.
Amen. Amen.